Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, Gilbert Collard, le député Rassemblement Bleu Marine. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons longuement sur la crise qui secoue actuellement le Front National. Évincé de la présidence d'honneur, Jean-Marie Le Pen peut-il encore rester au FN? Cette crise familiale ne risque-t-elle pas de laisser des traces dans l'opinion et au final d'abîmer l'image de Marine Le Pen? Voici quelques-unes des questions que nous vous poserons. Avant cela, gros plan sur la politique gouvernementale et sur les débats qui agite l'Union européenne. À mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Pierre.
Et Dominique Albertini du quotidien Libération.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est une réforme qui, depuis des mois, fait débat. La loi Macron arrivée ce mardi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Mais comme en février dernier, le gouvernement a une nouvelle fois préféré utiliser l'arme du 49-3, comme l'a expliqué Manuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle.
Je sais surtout que nous devons aller vite, que nous devons accélérer le rythme des réformes. Et parce que ce texte soutient l'emploi, parce qu'il va redonner du pouvoir d'achat, parce que c'est un texte de progrès, un texte moderne, parce qu'il donne un coup de jeune à notre économie. Pour toutes ces raisons, j'agirai avec la même responsabilité et avec la même détermination que le 17 février.
Manuel Valls a donc décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement sur cette loi Macron. C'est un passage en force à vos yeux, Gilbert Collard ?
Oui, c'est l'évidence. Hein. Je rappelle que fut un temps où François Hollande lui-même qualifier l'emploi du 49-3 de déni de démocratie. Hein. Du reste, l'hémicycle s'est vidé. Et Chassaigne lui-même a dit que c'était inacceptable.
Les députés de droite ont quitté l'hémicycle.
Oui, mais Chassaigne aussi. Et il a dit son mécontentement. Pourquoi ? On est pour, on est contre la loi. Hein. Ça, chacun, finalement, son opinion là-dessus. Hein. C'est respectable. Mais pourquoi organiser un aussi long débat, une aussi longue discussion, une aussi longue guerre d'amendements, si en fin de compte, la représentation nationale n'a pas droit à la parole?
Mais est-ce que c'est pas pourtant une marque de fermeté? Ça devrait vous plaire, ça, un petit peu de fermeté de poigne.
Ah mais moi, la dictature me plaît pas, hein, je vais vous désoler tout de suite. Hein, je n'ai aucune passion pour ce qui est dictatorial. Hein,
mais Marine Le Pen a parlé de dérive dictatoriale cet après-midi. Est-ce que c'est pas un peu excessif comme terme, quand même, dictatorial?
Oui, parce que pour l'instant, il a pas encore acquis la stature de dictateur. Mais la loi sur le renseignement me fait très peur. On pourrait en parler peut-être un peu, ça vous concerne aussi, vos journalistes.
Mais le 49-3, pardon, c'est une arme législative.
Oui, mais moi, je conçois tout à fait que vous défendiez le principe.
Mais je ne défends pas.
Du 49.
Je ne défends pas, c'est une arme qui est à la disposition.
Mais qui a dit que c'était illégal? Vous avez vous-même employé le mot qui tue. Vous avez parlé d'arme. Oui, c'est une arme.
Oui.
Vous avez raison de le dire. C'est une arme qui braque. Alors, ça peut être constitutionnel, ça peut être légal, il n'empêche que ça n'est pas dans l'esprit d'une démocratie ouverte. Quand Nicolas Sarkozy le faisait utiliser, à juste titre, on le critiquait. Pourquoi les critiques qui existaient à l'époque...
Il l'a pas utilisé.
Villepin. Quand Villepin l'utilisait... Et Rocard l'a utilisé, mais en fait, il avait une majorité moins solide. Quand Villepin l'a utilisé, François Hollande, lui-même, l'a critiqué. Donc, on peut, vous avez raison, dire c'est constitutionnel, c'est légal, oui. C'est une arme mise à la disposition du gouvernement pour forcer le vote. Bon, alors, on accepte ou on n'accepte pas. Moi, personnellement, je considère que dans une démocratie digne de ce nom, le 49-3 ne devrait pas exister.
Alors, à vous écouter, Gilbert Collard, on va entendre dans quelques minutes Dominique Albertini avec sa question, mais moi, j'aurais une question toute simple. Ça veut dire que si demain, le Front National, avec le Rassemblement Bleu Marine, arrive au pouvoir, le 49-3, vous ne l'utilisez pas?
Ah, moi, je supprime. Moi, je parle à titre personnel. Si vous voulez, si j'ai le temps, je vais vous donner en quelques secondes mon opinion. Il faut absolument qu'on reconnecte la démocratie avec les citoyens. Il faut qu'ils aient le sentiment, tant à l'égard des journalistes qu'à l'égard des politiques, que le fluide de la circulation d'opinions, de pensées, passe. Chaque fois qu'il y a une rupture de cette communication, il y a une souffrance démocratique. Et je considère, mais c'est une opinion très personnelle qui admet le débat, hein, que le 49-3 est une aberration constitutionnelle et démocratique. Je suis fondamentalement contre. Seule la représentation nationale décide, parce que c'est son rôle, sa mission, et quand même, je vous rappelle que le 49-3, il est issu d'une constitution dont François Mitterrand disait qu'elle était quasiment un coup d'État permanent. Hein.
Dominique Albertini.
Manuel Valls a parlé d'un souci d'efficacité pour justifier l'usage du 49-3 avec vos maintenant 3 ans d'expérience en tant que député. Est-ce que vous jugez que ce souci d'efficacité peut parfois se justifier, qu'il y a parfois à l'Assemblée du bavardage, de l'obstruction, et que ça peut être aussi une manière de rendre la procédure plus ordonnée, plus rapide, plus efficace?
Vous n'avez pas tort de le dire. Moi, j'ai un sentiment à travers mon expérience de désarroi. Il y a des moments vraiment où je ne comprends pas pourquoi on se perd dans des débats inutiles. Donc, je suis pas fondamentalement opposé à votre analyse. Mais vous parlez d'une loi importante. Bon, la loi Macron, vous la connaissez. Hein, ce sont des vieux textes qu'on a ressortis. Aujourd'hui, Monsieur Macron a évoqué sa loi. J'ai pris des notes pour vous. Il a parlé de quoi ? Il a parlé du travail le dimanche. Il a parlé des professions réglementées. Il a parlé de la réforme du permis de conduire. Et il a parlé des transports en autocar. Et c'est une loi qui comporte 400 articles. Est-ce que franchement, cette loi justifie le recours au 49-3 ? C'est la question qu'on doit tous se poser. Moi, je pense que non. Je pense que non.
Vous trouvez que c'est trop fouillis ? Ça part un petit peu dans tous les sens, cette loi ?
Il y a près de 400 articles. À l'intérieur desquels il y a un bric-à-brac dont on n'a pas encore fait objectivement l'analyse complète, hein, parce que Monsieur Macron lui-même, quand il évoquait sa loi, avait du mal à recentrer sur les articles importants, puisque il a évoqué ces points-là que j'ai notés dans mon petit cahier modeste. Bon, on aurait pu s'attendre à ce qu'il nous dise attendez, mais cette loi est importante. Regardez, elle porte sur telle question. Les autocars, le permis de conduire, les professions réglementées du droit.
Oui, mais pardon, mais ce sont des sujets qui intéressent les Français, parce que le permis de conduire, c'est cher, le train, c'est cher, donc de pouvoir mettre en place des autocars pour que les jeunes ou les gens qui n'ont pas d'argent puissent se déplacer, c'est pas anodin tout de même.
Et ça justifie le 49-3.
Alors ça, je suis d'accord avec vous, dans le sens où cette loi ne méritait pas l'indignité, ni il n'y a pas de quoi crier, venez voir, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que, tout bonnement, vous ne dites pas, c'est bon, même si c'est un bric-à-brac, ça peut donner de l'air à l'économie, ça peut permettre à des gens un pouvoir d'achat supplémentaire.
Mais un parapluie dans l'orage, on le prend toujours, mais on ne chasse pas l'orage. Voilà, bon, ben d'accord, il a pris un pépin dans un orage économique, social, général. Bon, si on se satisfait du parapluie sous la bourrasque, bon, ben écoutez, d'accord.
Mais vous l'aurez voté, cette loi ?
Non.
Non, qu'est-ce qui vous dérange en fait ?
Mais parce que elle est tout à fait insatisfaisante par rapport aux enjeux. Il faut revenir quand même à la gravité de la situation dans laquelle est notre pays. Il faut sortir de l'anesthésie dans laquelle on s'endort tous, quoi. On est dans une situation économique gravissime, plus de 2000 milliards de dettes, vous le savez, tout ça, on va pas encore ressasser les chiffres. Hein, bon, et la seule loi qu'on vote est bon. On peut concevoir ce que vous dites. C'est utile les autocars, c'est utile la réforme du permis de conduire. Bon, mais quand même faire de cette loi la loi emblématique du renouveau, non. Et puis recourir au 49-3 pour un texte de cette minceur
non, mais
de
c'est
réalité,
emblématique
non.
Pour la gauche, elle est symbolique.
Oui, mais on est en France, on n'est pas à gauche. C'est-à-dire qu'on fait des lois non pas pour un parti politique, fait des lois pour un pays. Voilà, c'est une nuance à laquelle je tiens.
Dominique Albertini.
Oui, en tant que député RBM, Rassemblement Bleu Marine, le seul de votre espèce, en 3 ans, avez-vous trouvé votre place et votre utilité à l'Assemblée ? Quel est le sentiment que vous avez ?
Oui, parce que j'ai fait plusieurs propositions de loi qui, à mon avis, montreront que nous avons pris date. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de dire des choses qui notamment récemment, à la tribune, hein, sur la violation du droit de domicile. Je me suis permis de lire à la tribune un guide qui se trouve sur Internet où on explique comment violer le domicile sans s'y reprendre. Et il est même conseillé dans ce guide qu'une fois que les squatteurs sont installés, ils doivent faire du bruit pour que la police fasse un constat, et puis ils doivent bien veiller à effacer toutes les preuves de violation du domicile pour pouvoir, incroyable mais vrai, déposer plainte à leur tour pour violation de domicile. Bon, je crois que c'est important de prendre date. Quand il y a eu le débat sur l'aide médicale d'État, j'ai dit que si on avait les moyens, parce que, je veux dire, j'ai pas de raison d'être plus méchant ou moins bon que vous, hein. Je serais d'accord, mais qu'on n'a pas les moyens. Et que donc, il fallait supprimer l'aide médicale d'État tout
800,
en...
800 millions d'euros par an. On va en reparler, ouais, si vous voulez, dans la question.
Mais là, à ce moment-là, Copé, monsieur Copé, pardon.
Sur l'immigration.
Avait voté contre. Et puis après, il est venu dire qu'il était pour. Alors, j'ai pu acter la distorsion de langage. Bon, c'est vrai qu'à deux, c'est difficile.
Ouais,
c'est difficile.
Parce qu'il faut aussi exister, et puis il y a peut-être aussi un jeu de posture en fonction des partis, des groupes aussi.
Mais qui dit le contraire? On est tous à un moment donné dans une posture, hein, vous comme moi.
Juste un petit peu pour recentrer le
débat.
Tant
que c'est pas l'imposture.
Juste pour recentrer le débat, et ça sera le dernier mot sur cette loi Macron, les Républicains et l'UDI ont présenté cet après-midi une motion de censure, ouais. Est-ce que vous allez la voter?
Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes mécontent de ce gouvernement, donc vous la voterez sans surprise.
Mais si demain le gouvernement présente un texte qui est bon, je le vote.
Vous en avez déjà voté?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai voté avec le Front de Gauche également. Bon, s'il y a des le texte sur les banques d'affaires et je l'ai voté. Moi, si c'est l'intérêt du pays, pourquoi je voterais contre? Parce que c'est de gauche. C'est absurde.
Pourquoi il faut s'inquiéter sur la loi assez court, hein, sur la loi sur le renseignement? Vous dites pour qu'on se.
Et parce qu'il y a, alors c'est une loi que j'ai bien étudiée. Je ne sais pas si vous la connaissez dans le détail, mais il y a plusieurs motifs de saisine. Bon. Et il y en a qu'un qui concerne le terrorisme. Les autres concernent des atteintes à la défense nationale, la protection des intérêts essentiels, des intérêts économiques. Là, par exemple, tout le travail qui a été fait contre le Mediator pourrait tomber sous la surveillance. Parce qu'on peut considérer qu'un médicament de cette importance a une valeur pour les intérêts économiques. Il y a un spectre, si vous voulez, qui est tellement large que on peut soumettre à cette surveillance n'importe qui, des journalistes, des avocats, dès l'instant où on porte atteinte aux intérêts essentiels de l'économie, aux intérêts essentiels de la science. Bon. Et puis, ce qu'on a oublié quand même de dire, c'est que les écoutes administratives demeurent. Alors maintenant, il y a un couplage. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la loi sur le renseignement, dont le juge n'a à connaître que de la légalité, pas de l'opportunité.
Il n'a pas à être saisi, on n'a pas besoin de saisir le juge pour autoriser ses écoutes.
Non, pas du tout, elles sont à la discrétion du ministre, et si un recours est fait, il ne portera que sur la légalité, c'est-à-dire sur la question, est-ce qu'il y a une atteinte aux intérêts essentiels de l'économie? Est-ce qu'il y a une atteinte aux intérêts essentiels de la science? Oui, le médiateur, tant que le procès n'a pas abouti, on a débattu pendant combien de temps, et le journaliste qui fait l'enquête, il est bon, hein.
Donc c'est pour protéger les grandes entreprises?
Non, c'est pour protéger tous ceux qui ont envie de dire et qu'on empêche de dire. C'est une loi qui vraiment, malheureusement, elle n'a pas été étudiée, cette loi, elle n'a pas été lue dans le détail. Mais pour un juriste, c'est un point de vue du reste qui est partagé par beaucoup de magistrats, y compris le syndicat de la magistrature. Elle est franchement liberticide.
Allez, venons-en maintenant, si vous voulez bien, à cette plateforme de dialogue lancée hier par le gouvernement avec les représentants du culte musulman.
Oui.
Objectif, débattre de tous les sujets, hein, de l'image de l'islam à la formation des imams, en passant par la construction des mosquées. Les aumôniers seront ainsi formés, comme l'a annoncé hier Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur.
L'État peut faire en sorte que soient proposées aux ministres du culte des formations appropriées dans les matières profanes. Droit du culte et principes de la laïcité, histoire et sociologie des religions en France, gestion des associations cultuelles, dialogue interreligieux. Le gouvernement a décidé que cette formation se sera très rapidement rendue obligatoire, pour le recrutement de nouveaux aumôniers dans les prisons, les hôpitaux et les armées.
Formation obligatoire pour les aumôniers. Les imams, eux, devront suivre des cours de laïcité et de sociologie des religions en France. Ces pistes vont-elles dans le bon sens, Gilbert Collard?
Oui, mais c'est un constat dramatique. Parce
Pourquoi
que c'est la preuve que l'islam de France est dans un tel état qu'il faut aujourd'hui le corriger. C'est le constat que fait le ministre de l'Intérieur après 3 ans d'exercice de pouvoir. Moi, j'habite dans le Gard, comme vous le savez, pas loin de Lunel. où on a un imam qui prêche le djihad. Le préfet s'en est même ému. C'est pas la loi sur le renseignement qui va nous renseigner, là.
Mais est-ce que c'est pas bien, justement, que le gouvernement dise aujourd'hui, on va mettre tout le monde autour de la table et on va discuter et on va essayer d'édifier à nouveau un islam de France? On a l'impression que ça dérange au sein du Front National et au Rassemblement Bleu Marine.
Ah, moi, je vois pas en quoi ça nous... Attendez, je vous dis pas que ça me dérange. C'est peut-être vous que ça dérange, que ça me dérange pas. Je vous dis que c'est le constat qu'on a un islam qui n'a pas des imams qui parlent français, qui n'a pas des imams qui sont formés à la laïcité, puisque le gouvernement veut y remédier. Ou alors, il est fou, ce gouvernement. Pourquoi voudrait-il y remédier si ce n'était pas nécessaire? Donc, on a un islam qui pose problème, puisque le gouvernement lui-même veut y apporter remède.
Pour vous, c'est...
Non, vous n'êtes pas d'accord?
Et est-ce que vous dites que l'islam pose problème, en fait? C'est l'islam qui pose problème en France?
Mais je n'ai pas... Vous devriez enlever votre casque pour m'entendre. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à partir du moment où un médecin donne un médicament, c'est qu'il a diagnostiqué le mal. Sinon, il est fou. À partir du moment où M. Cazeneuve, je viens de l'entendre, dit qu'il faut des imams qui parlent français et qui soient formés à la laïcité, c'est que le problème existe. Non, je veux dire, pourquoi vous l'admettez pas? Ça vous dérange idéologiquement, peut-être?
Non, mais alors, mais ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est comme mettre autour de la table l'Église catholique en 2002 et réunir.
On n'a jamais dit qu'il fallait apprendre aux évêques à parler français.
On n'a jamais dit ça.
On n'a jamais dit qu'il fallait apprendre aux évêques la laïcité. Mais pourquoi on ne peut pas avoir une approche objective du problème? À partir du moment où c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui nous dit, il faut les former, il faut leur apprendre à parler français, il faut les convaincre de l'importance d'une laïcité moderne.
C'est faisable, ça, d'après vous?
Ah, moi, je pense qu'il faut y arriver à tout prix, qu'on aurait dû l'entreprendre depuis longtemps. Mais tant qu'on aura des penseurs qui considéreront que le seul fait de dire qu'il faut que les imams parlent français, ça irrite, comment on va avancer? Il veut dire que cette lâcheté de la bonne conscience m'insupporte, parce qu'elle est en train de préparer les pires moments pour la France. Oui, il faut qu'ils apprennent à parler français. Oui, il faut que l'imam de Lunel, à coup de pompe dans les fesses, on l'envoie faire sa propagande ailleurs. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? On va arriver, par les conséquences de nos lâchetés, à des conflits qu'on ne veut pas, qu'on veut éviter.
Pensez-vous que ce genre d'initiative doit s'accompagner d'une aide de l'État, d'un soutien, de quelque ordre qui soit, à la construction de mosquées pour offrir des lieux de culte décents, adaptés,
contrôlés? Mais dans la même proportion qu'on le fait pour toutes les religions, avec le même contrôle des fonds. Vous comprenez? Bon, moi, j'ai absolument pas envie que le Qatar ou l'Algérie financent des mosquées. L'islam de France, c'est la France de l'islam, c'est l'islam de France. J'ai pas envie que ça soit le Qatar, l'Algérie, et j'ai envie que les musulmans de France soient complètement intégrés dans la laïcité, dans la langue, comme on se rend compte que c'est aujourd'hui nécessaire de le faire. Et j'ai pas envie qu'ils aillent dans les églises, en plus, ça doit faire plaisir.
Et quand on voit qu'il y a à peu près 2500 mosquées en France pour 2,5 millions de pratiquants, est-ce que vous pensez que c'est trop peu? Est-ce que, justement, il faudrait pas que...
Alors là, ce que j'ai pu lire, mais on va encore se faire allumer par des intox, hein, les services qui savent tout. Moi, j'ai envie un jour de faire le désintox du désintox. Et puis, il y aura le désintox du désintox du désintox. Bon, les chiffres sont contradictoires. Moi, j'ai lu des chiffres différents. Bon, mais s'il n'y a pas assez de mosquées, si c'est vrai, si c'est acté, que dans des conditions républicaines, laïques, où on soit dans le respect de la laïcité, dans le respect des lois, on ouvre des mosquées.
Et les églises, comme l'a proposé Boubacar.
Ça, c'est, il est revenu là-dessus, hein, je vous signale. Hein. Il a fait marche arrière, non. Alors, pour un argument que je vais vous donner, moi, qui est brutal.
Très rapidement. Hein.
Oui, c'est que il faut l'emprise d'aucune religion sur une autre religion. Voilà, aucune. Je vois pas une église s'installer dans une mosquée. Je vois pas une mosquée s'installer dans une synagogue. Je vois pas une synagogue s'installer dans une église, parce que ça exprime l'emprise d'une religion sur une autre, et ça, moi, personnellement, je n'en veux pas.
Merci Gilbert Collard, on va vous retrouver d'ici un petit peu plus de 3 minutes pour parler de la crise, notamment, qui secoue le Front National. On évoquera aussi la création d'un groupe Front National au Parlement européen, à Bruxelles. À tout de suite.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi Politique, notre invité ce soir, le député Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard. On parlait dans la première partie, enfin la première partie de l'islam de France. Les questions de religion et d'immigration sont au centre de vos préoccupations. Un mot sur le droit du sol et le débat qui ressurgit à droite. Éric Ciotti propose de revenir au droit du sang pour obtenir la nationalité française avec le maintien du droit du sol pour les ressortissants étrangers de l'Union européenne. Comment vous réagissez ?
Ben, il reprend une idée que j'ai plusieurs fois développée, qu'on a développée. Hein. Bon, ça c'est connu, hein. C'est connu.
Nous, on est pour le droit du sang. Ce sont des idées qui défendent.
J'aime pas le terme de droit du sang, parce que c'est une connotation un peu sanguine que je n'aime pas.
Et on rappelle qu'en France, c'est à la fois le droit du sol et le droit du sang. Vous, vous y seriez favorable?
Absolument, oui. Absolument, oui.
Pour quelle raison?
Hein? Pour quelle raison? Parce que j'entre chez vous que je suis chez vous. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'une adhésion physiquement historique à un pays. Alors, vous pourrez me parler de Romain Gary, hein, qui disait « La France coule dans mes veines ». Il avait raison en même temps. Hein. On pourrait parler de Lazare Ponticelli, hein, le dernier des poilus qui s'était engagé volontairement à l'âge de 16 ans, hein, et qui avait dit « La France m'a tout donné, je lui dois tout ». Donc, moi, je serais pour un droit du sang avec des catégories exceptionnelles. Pour un droit du sol en fonction d'événements remarquables chez la personne. Par exemple, je ne concevrais pas que Lazare Ponticelli ne fût pas français. Je ne concevrais pas que Romain Gary ne fût pas français. Voilà, bon. Mais le principe, pour moi, c'est le droit du sang.
Chez les Républicains,
le jus sanguini. Parler latin, c'était un peu démodé, mais...
Chez les Républicains, on explique que la question du droit du sang peut revenir sur le devant de la scène en raison de l'arrivée massive de migrants.
Oui, oui, c'est aussi... là aussi, vous comprenez, il faut essayer d'être très, 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 très franc. Bon. Est-ce qu'on va pouvoir encaisser, sur le plan social, économique, politique, l'arrivée des migrants? Donc quand même, l'OTAN nous a prévenus qu'ils pouvaient dans leur bagage transporter des terroristes, dont l'État islamique, Daesh, ce qui veut dire la même chose, nous a expliqué que l'arme des migrants allait être utilisée. Est-ce qu'on peut encore se permettre, pour avoir l'âme belle, quoi, finalement, hein, la belle posture, quoi, moi je suis bon, est-ce qu'on peut continuer à faire courir à notre pays ce risque? Voilà la question.
Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on renvoie ces migrants à la frontière? On les renvoie chez eux alors que des fois, ils viennent de zones de conflit?
Moi, je serai assez partisan de faire un appel à toutes les personnes qui veulent les héberger. Vous, par exemple, ou pas vous, vous donnez votre nom, vous dites, voilà, moi, je m'appelle monsieur Untel, je veux prendre 5 migrants. Vous les avez. Vous les avez. Tout de suite. Mais au plan de l'État... Au plan de la collectivité, quand on n'a pas les moyens, parce que je suis désolé, mais il y a quand même des migrants de l'intérieur. Hein. Ils s'appellent les chômeurs, ils s'appellent les jeunes pauvres, ils s'appellent les vieux qui ont pratiquement plus de retraite. Bon, on a nos migrants de l'intérieur, une misère colossale.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Concrètement, comment on fait aujourd'hui avec...
Mais on les renvoie.
Mais alors, ces bateaux de migrants qui arrivent, par exemple, au large de l'Italie ou au large de Lampedusa, qu'est-ce que vous faites?
Mais je les renvoie vers leur lieu d'origine. Et puis surtout, je m'emploie, à moins qu'on n'ait plus aucune connexion diplomatique nulle part.
Sauf que le droit d'asile est un droit international.
Oui, mais le problème, c'est que tous ces migrants...
Vous êtes pour la remise en cause du droit d'asile.
Mais non, je suis intervenu à l'Assemblée là-dessus. J'ai rappelé d'abord que le droit d'asile, c'était un principe chrétien. Hein, magnifiquement illustré dans Notre-Dame de Paris, du reste, pour ceux qui ont en mémoire ce magnifique livre de Victor Hugo. Mmh. Mais le problème, c'est que sur les migrants, sur les demandeurs d'asile, il y en a très peu qui sont admis au droit d'asile. Et on sait qu'on n'arrive pas, ceux qui sont refoulés, à les faire partir. Alors là encore, c'est 3, 2, 5%, on discute sur les pourcentages, mais l'évidence est là, c'est qu'une fois que nous les avons, on ne peut pas les faire partir. Alors, moi j'aimerais, si vous voulez...
Les renvoyer tout de suite, c'est ça?
Mais ça serait tellement... Vous comprenez, j'aimerais être comme vous, moi, dire, ah, mon Dieu, tous les migrants, il faut les accepter.
Mais c'est pas ce qu'on dit.
J'espère que c'est pas ce que vous dites, parce que vous êtes des gens responsables.
Non, on n'a pas...
Mais le problème, il est là. Est-ce qu'on peut encaisser? On peut plus. Alors arrêtons de nous faire plaisir. Arrêtons de dire que ces migrants qui rendent fous les policiers, aujourd'hui on a une vidéo qui circule, qui montre les violences de certains migrants à l'égard des CRS. Bon, vous vous rendez compte qu'on fait leur malheur aussi, et qu'on va introduire dans le pays des tensions qui vont devenir un jour peut-être incontrôlables, et qu'on sera nous responsables de ce Munich.
Mais vous, Gilbert Collard, qui avait été un avocat, qui avait défendu à certains moments les populations les plus défavorisées,
oui,
par le passé.
Oui, mais je continuerai à le faire s'il le fallait.
Vous seriez d'accord pour qu'aujourd'hui vous dites de dire, ben, on va renvoyer des migrants qui viennent de Syrie, par exemple, et les renvoyer dans un pays où ils sont menacés physiquement?
Mais non, puisque je vais demander une liste de gens prêts à les héberger.
Je vous pose une question.
Je vous donne ma réponse librement parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'on peut penser. Moi, je considère que si l'on continue à créer des tensions dans ce pays, on va le payer très cher. Maintenant, si la CGT dans ses châteaux veut héberger des migrants, je lui donne le droit. Si un particulier veut prendre à charge 5 migrants, je lui en donne le droit. Mais l'État, non. Parce que j'ai mes chômeurs, j'ai mes pauvres, j'ai mon insécurité, j'ai mes vieux qui n'ont pas leur retraite, j'ai un État qui est déliquescent, et je peux pas créer des migrants de l'intérieur sous prétexte qu'il y a des migrants de l'extérieur.
Gilbert Collard, est-ce que vous pensez que la constitution d'un groupe au Parlement européen, comme ça a été annoncé aujourd'hui par Marine Le Pen, est-ce que ça va permettre au Front National et au Rassemblement Bleu Marine de plus peser sur ces questions migratoires qui sont essentielles, on le voit à l'heure actuelle en Europe?
Ah ben, un groupe, ça donne un pouvoir juridique. Ça permet de faire des amendements, ça permet d'intervenir. Donc, on a maintenant l'instrument juridique parlementaire qui nous permet d'exister réellement. Et en même temps, il y a une dotation financière qui est importante aussi, dont on a besoin, comme tous les autres partis politiques. Donc vraiment, là, on est doté des instruments juridiques qui nous font défaut du reste à l'Assemblée nationale, puisqu'on n'a pas de groupe.
Donc vous pensez que l'éviction de Jean-Marie Le Pen a été payante, alors?
Vous parlez de quoi, de la dotation?
Non, pour la constitution du groupe.
La constitution du groupe.
Ah oui, je pense, pense que si...
C'était ça l'obstacle auparavant?
Ah non, certains ont dit que c'était l'obstacle. Mm-hmm. Était-ce vrai? Je n'en sais rien. Mais il est clair que ça devait être un obstacle, parce que, bon, il véhiculait des propos que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, et moi le premier. On ne pourra pas me le contester, cela.
Pensez-vous qu'avec sa mise à l'écart, la normalisation du FN est un processus achevé ou qu'il reste encore sur ce chemin des étapes?
Oui, il faut sanctionner tous les militants qui n'auraient pas compris que hier c'était hier et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et moi, je peux vous garantir que je suis intransigeant de ce point de vue-là. Je n'occupe pas une place importante au front, hein, vous le savez. Bon, j'ai été le premier à parler de marinisme, j'ai été le premier à soutenir Marine en tant que mariniste, et j'ai été le premier, je crois aussi, à m'engueuler avec son père, avant même de faire de la politique, du reste. C'est une vieille histoire. Bon, mais je pense vraiment que les militants doivent comprendre que on a une charte républicaine.
Est-ce que vous ne laissez pas passer
les propos racistes, les propos antisémites, les propos qui ne seraient pas républicains? Vous savez, ma vie, elle démontre que j'ai toujours été un républicain. Et je ne le supporterai pas qu'on porte atteinte de quelque façon que ce soit à ces principes.
Mais juste, on va revenir à un moment sur le Rassemblement Bleu Marine et sur le Front National. Moi, j'aurais juste une dernière question quand même sur ce groupe au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch ont annoncé qu'ils n'en faisaient pas partie de ce groupe. Comment vous réagissez à ça?
Alors, là, il y a un problème d'information, mais je ne peux pas trancher. Je ne sais pas si c'est eux qui ont dit qu'ils n'en feraient pas partie, ou si c'est Marine qui a décidé de ne pas les appeler. D'après ce que j'ai pu lire, je crois que c'est Marine qui a décidé de ne pas les appeler. Nous sommes d'accord. Bon, il faudrait donc savoir quelle est la version qui est la bonne. Bon, dans ma version, c'est Marine qui n'a pas voulu faire appel à eux. Du reste, j'ai lu une déclaration de Bruno Gollnisch qui va absolument dans ce sens. Hein. Bon, pourquoi? Parce que Marine ne peut pas, en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, l'intégrer à un groupe alors qu'il fait un procès à la présidente de ce groupe. Alors qu'il appelle de ses vœux son échec à l'élection. Bon, je crois que c'est une affaire de cohérence. Cohérence.
Donc ça veut dire que Jean-Marie Le Pen, bon, on va en reparler dans quelques minutes, mais Jean-Marie Le Pen et le Front National, c'est l'histoire ancienne désormais.
C'est de l'histoire.
C'est de l'histoire, ça veut dire que c'est passé.
C'est de l'histoire.
Ce n'est plus le futur.
Il n'est que suspendu pour l'instant.
Ce qui
appelle soit réintégration, soit expulsion définitive. Il y a encore une étape.
Oui, je doute fort qu'il soit réintégré, voyez-vous.
Vous doutez qu'il soit réintégré?
Ah oui, oui, oui. Tout est possible, puisqu'il y a un vote. On ne sait jamais ce qu'un bureau politique peut décider. Mais compte tenu du comportement qu'il a eu, compte tenu des propos qu'il a tenus sur Marine Le Pen, compte tenu du procès qu'il vient de faire, qui est quand même... un casus belli, on peut pas trouver plus grande quérulence. Je vois pas comment il pourrait être réintégré, sinon pour nous désintégrer.
Et pourtant Marine Le Pen a répété encore ce week-end qu'elle ne voulait pas son exclusion définitive du parti, qu'il reste un adhérent. Est-ce qu'on peut rester comme ça adhérent d'un parti alors qu'on a été la figure de ce parti pendant tant d'années et alors qu'on est en guerre ouverte avec la présidente?
Si on essaye de pas faire de la langue de bois, c'est très emmerdant de l'humilier. Voilà, il faut parler franchement, quoi. Si vous le comprenez pas, c'est que vous ignorez tout de la complexité des rapports humains. La sanction a été prise. Ce qui a été dit a été dit. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de l'humiliation? Alors, est-ce qu'on reste encore dans la sanction? Ou est-ce qu'on dérape dans l'humiliation? Je pense pas que vous soyez tous ici autour de cette table des passionnés de l'humiliation. Je crois pas, il y a un moment de grandeur, peut-être, où on va pas jusqu'au bout parce que on veut préserver un je ne sais quoi d'histoire, de dignité dans l'histoire.
Et est-ce que ce qui se passe là en ce moment au Front National, ça va vous pousser à rejoindre ce parti?
Mais moi, ce parti, je le rejoindrai demain si Marine me le demandait. Je l'ai dit 50 fois, mais elle me le demande pas.
Elle vous l'a pas demandé?
Elle ne me le demande pas.
Comment vous l'interprétez, ça, le fait qu'elle ne vous le demande pas?
En étant optimiste, je me dis que c'est parce qu'elle souhaite que je continue à accomplir ma mission au RBM. En étant pessimiste, je me dis qu'elle ne veut pas d'un emmerdeur.
Mais
comme je suis optimiste, je pense que c'est la première version qui est la bonne.
Pourquoi pas de vous-même?
Mais parce que je suis secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. J'ai donc une mission qui consiste à ramener des gens qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas adhérer au Front National pour toutes les raisons que vous connaissez par cœur et que vous pourriez tout à fait légitimement rabâcher. Donc, je dois leur permettre de venir en nous sans les faire entrer au Front National. Voilà, et jusqu'à présent, c'est une mission que j'ai bien remplie, parce qu'on a ramené pas mal de monde, on en ramène encore, le Rassemblement Bleu Marine a des adhésions, donc c'est une mission, si vous voulez, de rapprochement du Front.
Est-ce que les derniers développements, du coup, rendent caduque, finalement, le rôle du Rassemblement Bleu Marine qui devait servir en quelque sorte de sas?
Non, parce que il y a encore beaucoup de gens qui, précisément à cause du conflit dont vous parliez, demeurent dans l'expectative et nous leur offrons, puisqu'ils veulent nous rejoindre, un moyen de venir sans être impliqués dans ces querelles que nous n'avons pas encore, hélas, définitivement réglées.
Roselyne Fèvre.
Oui, dans le fond, quel regard vous portez sur cette affaire de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, avec un peu de recul? Certains ont dit, c'est un parricide, mais non. au départ quand même, comme on dit à la récré, c'est Jean-Marie Le Pen qui a commencé, non?
Tout à fait, mais écoutez, franchement, on lui a donné plusieurs avertissements. Moi, le premier, je me rappelle que j'avais fait un tweet en disant qu'il était un tract ambulatoire. Ambulatoire. Je reconnais que c'est pas très gentil pour Manuel Valls. Il m'avait répondu en me traitant de connard, ce que je sais depuis l'école primaire. Je trouvais du reste qu'il rajeunissait un peu avec son humour. Chaque fois, j'ai réagi. Marine, dans un souci d'apaisement et en espérant qu'il comprendrait, a espéré. On a espéré jusqu'au moment de la désespérance. À partir du moment où il va dans Rivarol, qui est un journal qui nous combat, ce qui est quand même extraordinaire, quoi, c'est un journal facho qui nous combat, on est bien content en plus, il va déverser sa bile, qu'est-ce qu'on doit faire, malgré l'histoire, malgré la reconnaissance?
Et pourquoi il fait ça, d'après vous? C'est quoi le...
Elle est shakespearienne, cette question.
Ouais. Il semble qu'il y a aussi des raisons politiques.
Oui.
Au milieu de tous les griefs personnels qu'il a contre sa fille ou M. Philippot, il y a aussi la critique, légitime ou pas, d'une ligne qui se serait gauchisée, en quelque sorte, qui ferait appel aux fondamentaux du socialisme, du chevènementisme, et qui mettrait le FN en décalage avec une partie importante de son électorat et de la droite. Qu'en pensez-vous?
Je refais remarquer quand même qu'au tout début, il n'était pas question de décalage politique. Ça n'est venu qu'après. où il a dit, mais Philippot est un gauchiste, etc., etc. Bon, franchement, quand on prend notre programme, si on considère qu'il ressemble à celui de Mélenchon, on va rendre complètement internable Mélenchon, parce que là, pour le coup, il va partir de l'entonnoir. Hein. Il en faut peu, mais là, il va y aller. Hein. Il n'y a aucune commune mesure, ni sur l'immigration, ni sur l'euro, etc. Bon, ce que Jean-Marie Le Pen appelle une gauchisation, une trotskisation, une léninisation, je sais pas quel terme employer, c'est que on ne veut plus jouer avec les mots qu'il emploie. Ça, on le supporte, je l'ai jamais supporté, et je le supporte plus. Et il y a plein de gens comme moi qui ne le supportent plus, Marine la première. Marine, elle a sauté sur les genoux de son père, franchement, mais elle a pas sauté sur Dien Bien Phu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas son monde, quoi. C'est pas sa génération. Hein. Bon, il nous fatigue avec Pétain. Enfin, qui peut se dire pétiniste aujourd'hui à moins d'avoir 150 ans, quoi? Il ne se rend pas compte qu'on est dans un autre monde avec d'autres agressions, d'autres dangers, et d'autres problèmes.
Les questions politiques ne sont que des prétextes pour que lui puisse continuer à évoquer ses vieilles lunes.
Moi, je crois, mais là, je peux me tromper parce qu'on entre, dans l'interprétation quasiment psychanalytique, hein. Mais ça nous pend au nez à tous. Hein. Je crois que quitter la scène doit être dramatique. Hein, vous savez la phrase de Shakespeare sur ces marionnettes, hein, qui font trois petits tours, puis la folie, et qui s'en vont. Moi, j'ai plus le texte en tête, malheureusement. Ça nous guette tous. Vous allez radoter devant un micro jusqu'à quand? Et moi? Non mais attendez, non mais c'est valable pour moi comme pour vous. Bon, est-ce que on va à un moment donné être pris dans une solitude sonore qui fera que parce qu'on nous entend plus, on va se croire sourd? Comme je ne sais plus qui le disait de Chateaubriand. Bon, voilà, je veux dire que c'est pathétique, quoi.
Oui, quand
je
l'ai dit, est-ce que vous craignez pas, Gilbert Collard, il reste deux minutes dans cette émission, est-ce que vous craignez pas tout de même que ça ait un impact un petit peu négatif pour Marine Le Pen, cette crise familiale d'une virulence et d'une violence, et que à terme ça puisse l'impacter négativement dans l'opinion?
Non, parce qu'elle a subi l'épreuve du feu. Savoir dire non à son père, savoir le sanctionner, c'est s'élever dans une souffrance inouïe parce qu'elle l'aime, à la hauteur des décisions d'État. Et nous avons grand besoin d'un homme ou d'une femme d'État qui fasse passer l'intérêt du pays avant ses émotions, avant ses sensibilités, avant ses petits plaisirs personnels.
Mais est-ce que ça, c'est pas un petit peu la communication? Parce que quand on voit, on parlait tout à l'heure du RVM.
Mais ce qu'on fait depuis deux heures, ce n'est que de la communication, communique.
Mais quand on voit les candidats qui ont été exclus il y a quelques jours, quand on voit certains candidats du Rassemblement Bleu Marine qui sont du mouvement identitaire et qui tiennent des propos que Jean-Marie Le Pen ne renierait pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu une opération de com' de la part du FN?
Lesquels, pardon?
Mais Gérard Brazon, par exemple, là plutôt, qui est un candidat Front National, qui est un candidat identitaire, qui met en avant sur son site Riposte Laïque.
Moi, je vois. A-t-il tenu des propos répréhensibles?
Ah ben, je vous irai voir sur sa page Facebook.
Non, je sais pas. Si ça tombe sur moi, je vais m'y intéresser tout de suite.
Ah, hein. Il publie des textes de Guillaume Fay, qui est quand même réputé pour avoir des positions assez identitaires. Ouais. Bon, ce sont des propos que Jean-Marie Le Pen ne renierait pas.
Est-ce que alors là, moi, je suis très prudent, voyez-vous, parce que j'ai pas envie de mettre de menottes aux mots. J'ai trop de respect pour les mots. Donc, avant de me prononcer, je veux lire. Mais c'est pas parce que quelqu'un tiendrait des propos qu'a tenu Jean-Marie Le Pen que vous allez me faire la blessure de penser que ce que je dis, c'est de la com. Je m'en tape de la com, moi. Vous le comprenez une fois pour toutes, ça, je m'en fous. Moi, je pense que la vérité, elle est ailleurs. Elle est dans le courage qu'on a de dire le réel. Le réel. Et pour le dire, il faut se foutre de ce que les autres pensent de vous.
Eh bien, on vous quittera sur ces mots. Merci Gilbert Collard d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous mardi prochain pour la dernière émission de la saison. Merci à Mathias Golchani qui était comme chaque semaine aux manettes. Merci également à Audrey Yatoni qui a préparé cette émission. Bonne semaine à tous. À l'écoute de la Radio du Monde, bien sûr.